Faire via GAB, le service d'envoi d'argent vers le guichet automatique pour un retrait sans carte, vous propose l'émission Appel sur l'actualité.
Banque Atlantique, grandir ensemble.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Bienvenue, si vous nous rejoignez, appelez-nous, exprimez-vous. Dans 30 minutes, nous lancerons le débat sur cette polémique qui enflamme le football camerounais. Les Lions Indomptables pourraient bien, je dis bien pourraient bien, se retrouver avec deux sélectionneurs. La semaine dernière, le ministère des Sports a nommé le Belge Marc Brice pour succéder à Rigobert Song. Marc Brice est arrivé à Yaoundé dimanche soir. Hier, il a signé son contrat pour une durée de 2 ans et demi. Seulement voilà, Samuel Eto'o, le patron du football camerounais, le patron de la FECAFOOT juge illégale cette décision et il promet de nommer aujourd'hui même son propre sélectionneur. Alors que vous inspire ce bras de fer? Samuel Eto'o aura-t-il le dernier mot? On en parle, vous êtes déjà nombreux au standard, 33 9 693 693 70 et vos commentaires bien évidemment sur nos réseaux sociaux. Mais d'abord, ce sont vos questions à la rédaction de RFI pour mieux comprendre l'actualité et justement, une question sur ce conflit entre Samuel Eto'o et le ministre des Sports du Cameroun. Bonjour Desjolis.
Bonjour Juan Gomez. Bonjour aux auditeurs de RFI.
Et merci de nous appeler de Douala, au Cameroun. Nous vous écoutons.
Oui, c'est ma première participation à l'émission.
Tout arrive. Et vous allez voir, ça va très bien se passer.
Justement, le président de la FECAFOOT, Samuel Eto'o, refuse de reconnaître Marc Brice et a annoncé nommer son sélectionneur ce jour. Ma question. S'il nomme un nouveau staff technique, que va-t-il se passer? La FIFA va-t-elle prendre position?
Samuel Eto'o va-t-il passer de la parole aux actes? Bonjour Olivier Pron.
Bonjour Juan Gomez.
Journaliste.
Bonjour Douala.
Au service des sports de RFI. Si jamais, je dis bien, si jamais Samuel Eto'o nomme un sélectionneur, que peut-il se passer? Nous demande Desjolis.
Si jamais, vous avez tout dit, je pense que je peux y aller. Non. Si jamais, on va le savoir ce mardi. Mais alors, il faudrait savoir qui, avec quel argent, comment, pourquoi, qui prendrait ce risque. En tout cas, s'il nomme un deuxième sélectionneur, on voit mal comment la FIFA ne pourrait pas sortir du bois et venir demander des comptes et reprocher peut-être une ingérence, parce qu'elle est manifeste d'abord, l'ingérence du gouvernement et de l'État camerounais dans la nomination de Marc Brice. C'est le cas depuis de nombreuses années. Hein. C'est d'ailleurs l'État qui paye le sélectionneur au Cameroun. Donc il est logique pour certains qu'il nomme ce sélectionneur. Oui, mais ça n'est pas dans les textes de la FIFA de faire ça.
Dans les textes de la FIFA, il est stipulé qu'il faut la signature aussi bien du patron, du président de la FECAFOOT que du ministre des Sports. Donc s'il manque une des deux signatures, la FIFA se saisit?
La FIFA pourrait se saisir. Dans ces cas-là, elle suspendrait évidemment la FECAFOOT actuelle. Donc Samuel Eto'o, est-ce que Samuel Eto'o a intérêt à ce que la FIFA s'empare de l'affaire? Ça veut dire qu'il se mettrait de facto sur la touche, puisque la FIFA nommerait un comité de normalisation. Attention, hein, il y a un précédent au Cameroun d'un président de fédération qui avait refusé de signer. C'est Mohamed Ia, l'ancien président donc, de la FECAFOOT de 2000 à 2013. Il avait dû accepter de voir le ministre des Sports lui imposer l'allemand au Topfister, mais en guise de mécontentement, il n'avait pas paraffé son contrat. Qu'est-ce qui s'est passé? Un petit peu plus tard, se croyant sans doute un peu trop sûr de ses forces, lui qui était un homme d'affaires, il s'est retrouvé en prison et il y est toujours 11 ans plus tard. Je suis pas sûr que Samuel Eto'o, ça le tente vraiment d'aller en prison, mais pour l'instant, il va au bras de fer, contrairement à ce que beaucoup imaginez ces derniers jours, il tient bon, la réponse ce mardi encore une
jusqu'où
fois.
Jusqu'où ira-t-il?
Il avait 72 heures pour nommer un sélectionneur, mais je vous le dis, un sélectionneur étranger qui n'obtiendrait pas de visa de travail, la FECAFOOT n'a pas les moyens de le payer, quel sélectionneur on nous annonce dans
et
la
quel
liste
sélectionneur national, mais quel sélectionneur national accepterait également?
Ben oui, mais on nous annonce Hervé Renard, José Pesero qui vient de quitter le Nigeria, Fabio Cannavaro, le Ballon d'Or 2006, aucun de ces hommes-là ne peut décemment venir au Cameroun.
On va suivre ça et on en débat tout à l'heure avec les auditeurs. Merci infiniment Olivier Pron. Desjolis, on a répondu à votre question?
Non, merci, je suis satisfait de la réponse d'Olivier Pron, merci.
Et bonne journée à vous, et vous restez évidemment à l'écoute des RFI. À bientôt, Olivier Pron, 10h15 à Paris. Je me fais le porte-parole de Lassana. Lassana qui nous envoyait un petit message et des questions sur WhatsApp. Il est à Kaï, au Mali. Il dit « J'ai entendu sur RFI que des affrontements ont eu lieu entre les djihadistes du JNIM et les rebelles, ex-rebelles du CSP au centre du Mali. Comment expliquer ces combats alors que les deux groupes combattent l'armée malienne ?» Bonjour David Baché.
Bonjour Juan.
Merci d'être avec nous, journaliste au service Afrique de RFI. D'abord, précisez-nous où se sont déroulés ces affrontements.
Alors, ils se sont déroulés à proximité de la frontière de Ouagadou, qui est toute proche de la frontière mauritanienne, à cheval sur les régions de Ségou et de Mopti, et juste à côté de la région de Tombouctou. On est donc dans le nord du centre-ouest du Mali, si je puis le dire. Mais c'est important de le préciser parce que selon les cadres du CSP avec qui j'ai pu échanger, eh bien, c'est pour une question de territoire que les rebelles ont été attaqués par les djihadistes du JNIM. Alors, le JNIM n'a pas communiqué officiellement pour le moment sur ces affrontements, mais selon eux, selon les rebelles, le JNIM, lié à Al-Qaïda, refuse que le CSP combatte dans le sud du Mali. Il faut rappeler que le fief de ces groupes rebelles, c'est la région de Kidal, dans le nord. Ils sont aussi présents dans toutes les régions du nord, Gao, Tombouctou, Ménaka, Taoudéni. Et jusqu'à la signature de l'accord de paix de 2012, l'essentiel des groupes armés qui composent l'actuel CSP revendiquait d'ailleurs l'indépendance de ces régions du nord, qu'ils désignent sous le nom d'Azawad. En novembre dernier, le CSP a été délogé de son fief de Kidal par l'armée malienne et ses supplétifs du groupe Wagner. Et depuis, eh bien, les rebelles promettent qu'ils vont prendre leur revanche, et c'est apparemment dans ce cadre, avec cette intention, que des combattants du CSP descendaient vendredi dernier en direction du sud du Mali. Et c'est donc à proximité de cette forêt de Ouagadou que les djihadistes du JNIM auraient tendu une embuscade aux rebelles du CSP. Embuscade, c'est le terme utilisé par le CSP lui-même. Le JNIM ne veut pas voir les rebelles mener d'opérations dans ce qu'il considère comme sa zone, même si c'est contre un ennemi commun. Les rebelles avaient d'ailleurs été prévenus. On parle vendredi dernier, selon les sources, d'une dizaine, voire d'une vingtaine de morts de part et d'autre.
Mais c'est étonnant tout de même, David Baché. Et comme le rappelait d'ailleurs Lassane dans sa question, le JNIM et le CSP combattent tous les deux l'armée malienne.
Effectivement. Depuis la rupture de l'accord de paix de 2012, donc ça c'était en janvier dernier officiellement, mais sur le terrain depuis l'été dernier, depuis la rupture de cet accord de paix, donc les rebelles du CSP ont repris les armes contre Bamako. L'accord de paix, la décentralisation promise, constituait un compromis. Ce compromis étant enterré, la guerre entre les rebelles et l'armée malienne a repris. Quant aux djihadistes du JNIM, eux, ils n'avaient jamais cessé de combattre l'armée malienne. D'ailleurs, les autorités maliennes de transition mettent ces groupes armés, les rebelles du CSP et les djihadistes du JNIM, dans le même sac. Tous sont qualifiés de terroristes. Et on se souvient même que la justice malienne a lancé en novembre dernier une procédure commune contre plusieurs chefs rebelles et djihadistes, les accusant d'avoir formé une association ayant pour but de semer la terreur, de porter atteinte à l'unité nationale, à l'intégrité territoriale et à ternir l'image des forces armées maliennes. Depuis, d'autres actes d'ailleurs ont été posés par les autorités de Bamako dans le même sens.
Ouais, ce que les rebelles du CSP contestent catégoriquement.
Oui, les rebelles du CSP se sont toujours défendu de toute action commune avec le JNIM. Ils ont toujours expliqué que si l'armée malienne et le groupe Wagner constituaient bien désormais un ennemi commun, eh bien leurs opérations, celles du JNIM et celles du CSP, étaient menées chacun de son côté. Alors, quand même, la porosité entre groupes rebelles et djihadistes est bien réelle, elle est connue de tous depuis des années. Il y a eu par le passé des transfuges entre ces groupes, et même récemment, le mois dernier, un chef militaire du CSP a rallié le JNIM, le colonel Hussein Roulam, pour le citer. Nous vous en avions parlé sur RFI. Mais ces transfuges, eh bien, ce sont aussi une preuve supplémentaire que les groupes rebelles et djihadistes sont bien distincts. Et cet affrontement de vendredi dernier n'est pas le premier, il y en a eu d'autres par le passé. Le MNLA notamment, qui est l'un des groupes membres du CSP, a perdu beaucoup d'hommes dans ses combats contre Al-Qaïda. Donc c'est vrai que, vu le contexte actuel, l'affrontement de vendredi dernier peut surprendre. Moi-même, je ne vous le cache pas, j'ai été surpris, mais comme vous le voyez, en fait, eh bien, tout s'explique.
Et merci à vous, David Baché, d'être venu nous éclairer sur ces derniers affrontements. J'espère que Lassana parviendra à écouter vos explications. En tout cas,
on le salue.
À réécouter à tout moment sur l'application RFI Pure Radio. À bientôt, David Baché. 8h19, en temps universel. Vous avez des questions sur l'actualité, bien surtout, n'hésitez pas. Vous nous appelez ou vous nous envoyez vos questions via les réseaux sociaux. Anissé nous a contacté de Centrafrique. Bonjour Anissé.
Bonjour, Juan.
À Bangassou, exactement. Et vous souhaitiez que l'on revienne sur le récent bombardement du consulat d'Iran à Damas.
Exactement, Juan. En Syrie, 7 des responsables des gardiens de la révolution iranienne ont été tués à cause d'une frappe attribuée à Israël. Alors, Juan, j'ai deux questions à ce sujet.
Oui.
Quel est son intérêt à frapper ce site en Syrie ?
Alors, l'intérêt d'Israël à bombarder la Syrie. Bonjour, Oriane Verdier.
Bonjour.
Merci de nous rejoindre. Journaliste au service international de RFI, précisons qu'il y a eu quand même au moins 6 missiles de tirés sur le siège du consulat, qui a d'ailleurs été entièrement détruit. Il faut rappeler que depuis maintenant une dizaine d'années, les frappes israéliennes en Syrie se comptent par centaines.
Oui, exactement. Ça ne date pas du début de la guerre à Gaza. Hein. Depuis le début de la guerre en Syrie, par contre, en 2011, l'Iran a accru son pouvoir et sa présence sur le pays. Et ce n'est pas au goût d'Israël, qui refuse de laisser son grand ennemi régional s'installer définitivement et entièrement dans un pays voisin. Bien sûr, le conflit à Gaza est une nouvelle variable dans ce rapport de force. Depuis 6 mois, Israël et les États-Unis, par extension, font face à des mouvements d'agression croissants venus de l'Iran et surtout de groupes armés rattachés à l'Iran. Israël participe bien sûr également à cette surenchère de violence et c'est dans ce mécanisme-là qu'a eu lieu cette frappe à Damas. Une frappe plus importante que les autres car elle a touché le consulat iranien, une installation diplomatique, donc d'une certaine manière le territoire iranien. Elle a tué 7 membres des gardiens de la révolution, l'armée idéologique de la République islamique, dont 2 hauts gradés. L'un d'eux était le plus haut gradé iranien en Syrie, Mohamed Reza Zahedi, était le seul Iranien au sein du conseil de la Choura qui dirige le Hezbollah libanais, ce groupe armé pro-iranien qui est notamment engagé dans le conflit avec Israël à la frontière nord d'Israël au sud du Liban.
Anissé, vous avez une deuxième question.
Une réponse de la part de l'Iran et de ses alliés est-elle à craindre ?
C'est en tout cas ce que craignent les pays de la région.
Oui, et particulièrement l'Irak et la Jordanie. Certaines milices chiites irakiennes font partie du fameux axe de la résistance qui rassemble les différents groupes armés répondant à Téhéran. Elles ont fréquemment attaqué les bases américaines positionnées en Irak ces dernières années. Et dans un contexte de montée de tensions, un bombardement a fini par tuer 3 militaires américains en Jordanie en janvier dernier. Et c'est suite à cela qu'il avait été décidé d'arrêter l'escalade et de stopper ces bombardements. Mais l'Iran accuse les États-Unis d'avoir autorisé la frappe sur son consulat à Damas. Les Irakiens et Jordaniens s'inquiètent donc d'être à nouveau le théâtre de ce conflit.
Et côté israélien, on se prépare également. Le ministre de la Défense a déclaré dimanche que l'armée était prête à réagir à n'importe quel scénario face à l'Iran.
Oui, elle se dit aussi prête à la guerre à la frontière libanaise. Les échanges de tirs avec le Hezbollah se sont intensifiés. Le chef du mouvement Hassan Nasrallah a jugé vendredi qu'une riposte iranienne était inéluctable. Sur un autre plan, un conseiller militaire du guide suprême iranien a prévenu qu'aucune ambassade israélienne n'était en sécurité. Le ministre des Affaires étrangères iranien a entamé une tournée régionale. Il était dimanche à Oman où la diplomatie l'a invité à la désescalade. Il a également rencontré le porte-parole des rebelles houthis, ce groupe armé yéménite qui fait partie de l'axe de la résistance. Il était hier en Syrie, ensuite, où il a inauguré le nouveau consulat iranien. L'Iran soutient depuis des mois qu'il ne veut pas d'une guerre régionale. Ce n'est en effet pas dans son intérêt. Une réponse ferme entraînerait sûrement une nouvelle réponse d'Israël et des États-Unis, mais ne pas répondre en même temps, ce serait envoyer un signal de faiblesse à Israël. À cette complexité viennent s'ajouter les négociations autour d'une trêve à Gaza. Elles ont débuté dimanche au Caire. Téhéran s'affiche comme un garant de stabilité dans la zone et surtout le défenseur du peuple gazaoui. Alors il ne voudrait pas être celui qui attise le conflit. Bref, il est très difficile de savoir quelle stratégie va suivre Téhéran.
Anissé, est-ce qu'on a répondu à vos deux questions ? Êtes-vous satisfait ?
5 sur 5, Juan. Et je profite à l'antenne et salue toute l'équipe d'Appel sur l'actualité.
Et merci de vos encouragements et merci pour cette notation. 5 sur 5, Oriane Verdier. Merci à vous. Bonne journée. Je rappelle que vous êtes journaliste au service international de RFI. Il nous reste encore 5 minutes. Le temps de prendre une dernière question ce matin. On va parler de la transition en Guinée. Nialelaï, bonjour.
Bonjour, Juan.
Dans la capitale guinéenne, à Conakry, soyez le bienvenu.
Merci, Juan. Bonjour à vos millions d'auditeurs. Bonjour à la RFI.
Nous vous écoutons.
Merci, Juan. La semaine dernière, les forces vives de Guinée ont, dans un communiqué, réclamé le retour à l'ordre constitutionnel. Mmh. J'aimerais savoir quels sont les moyens de pression dont disposent les forces vives de Guinée pour se faire entendre.
Les forces vives de Guinée, rappelons qu'il s'agit d'un groupement d'associations de la société civile et de partis politiques. Bonjour cabinet Fofana.
Bonjour Juan et bonjour à tous.
Directeur de l'Association guinéenne de sciences politiques, alors ces organisations s'inquiètent du report potentiel de la fin de la transition prévue à la fin de cette année. Et d'ailleurs ces associations ont menacé de ne plus reconnaître les autorités de la transition à partir du 31 décembre 2024. D'abord, comment expliquer une telle menace ?
Mais la menace, elle est devenue importante après donc la sortie sur RFI du Premier ministre Amadou Ouriba et d'une rencontre qu'il a eue avec les acteurs politiques, auxquels les acteurs politiques, il a tout simplement demandé d'accepter, de reconnaître que cette année, les élections, les différents scrutins n'auront pas lieu. Et les forces vives n'ont pas attendu pour donc s'y opposer et demander tout simplement que le CNRD respecte ses engagements conclus en octobre 2022 avec la CEDEAO, le CAIR Accord demande justement que toutes les élections soient organisées cette année.
Ah, effectivement, c'est sur RFI que le nouveau Premier ministre avait reconnu que les militaires ne remettraient certainement pas le pouvoir comme prévu avant la fin de cette année. C'est vrai qu'il y a beaucoup de retard dans le processus de transition. Les forces vives constatent qu'il n'y a toujours pas de projet de constitution, toujours pas de code électoral, ni d'organe de gestion des élections. Elles dénoncent également qu'il n'y a toujours pas de fichier électoral. De quels moyens de pression disposent les forces vives aujourd'hui pour faire en sorte que le calendrier initialement prévu soit respecté par les militaires ?
Alors, comme vous l'avez tout de suite expliqué, les forces vives, c'est l'ANAD qui est donc la coalition de l'UFDG et alliés, c'est le RPG Arc-en-Ciel, l'ancien parti au pouvoir, c'est le FNDC, le Front National Défense contre la Constitution, qui est donc un consortium d'acteurs sociaux et qui sont donc forts justement de leur capacité de mobilisation. Donc la première arme que disposent les forces vives, c'est d'abord leur capacité de mobilisation, ce qu'on pourrait tout simplement appeler par un potentiel protestataire, surtout dans la ville de Conakry qui a constitué depuis tout ce temps l'épicentre des manifestations.
Oui, mais ça ne vous a pas échappé, cabinet Fofana, que les manifestations sont quand même interdites depuis l'arrivée des militaires au pouvoir.
Effectivement, depuis la dissolution du FNDC et les dispositifs qui ont été pris depuis tout cela, depuis donc septembre 2021 pratiquement, il est très difficile de manifester. Et peut-être qu'il faut, ce qui peut éventuellement faire un peu dans en fait, ce qui peut changer justement, c'est aujourd'hui le contexte. Vous avez un contexte économique difficile où de moins en moins les acteurs politiques, l'opinion publique politique est la plus importante qui est affiliée donc à ces acteurs-là, ont confiance à la démarche et cela peut véritablement changer. Si toutefois, par exemple, des journées villes mortes sont appelées, il va sans dire qu'elles peuvent être respectées.
On suivra ça bien évidemment et on aura l'occasion d'en débattre avec nos auditeurs guinéens. Nyalelaï, a-t-on répondu à votre question ?
Oui, Juan, je suis satisfait à 100% et je remercie la RFI.
Merci à vous de votre fidélité. Cabinet Fofana, bonne journée, à bientôt. Je rappelle que vous êtes le directeur de l'Association guinéenne de sciences politiques. Vous continuez évidemment à nous suivre à la radio et sur les réseaux sociaux. J'en profite d'ailleurs pour remercier toutes celles et tous ceux qui nous suivent sur la chaîne WhatsApp RFI Appel sur l'actualité. Notre chaîne WhatsApp, ce sont des vidéos évidemment pour décrypter les grands sujets qui font l'actualité et qui ne vous laissent pas indifférents. Ce sont également des sondages, des quiz ou encore les coulisses de l'émission. Donc si ce n'est toujours pas fait, abonnez-vous et abonnez-vous dès maintenant à la chaîne WhatsApp RFI Appel sur l'actualité. On va retrouver le service Afrique de RFI pour la dernière édition d'Afrique Matin et on revient dans 10 minutes.